de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz ou 4750 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant La Voix de l'Indonésie avec moi Audrey. Je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Et il y a quelques événements importants, entre autres, le président indonésien admet qu'il faut du temps pour discuter de l'accord d'Helsinki. L'ONU décrit une situation horrible dans le nord-ouest de la Syrie, craignant les germes de Trump et en colère des citoyens américains s'exposer corona rejeté. Le président et le vice-président assisteront au 7e congrès de la communauté musulmane indonésienne à Pangkalpinang. 7 personnes ont été tuées, des milliards de bâtiments se sont effondrés lors du tremblement de terre à la frontière turco-iranienne et Macron promet de se battre pour les agriculteurs et les pêcheurs français. Bon, cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. Le président indonésien admet qu'il faut du temps pour discuter de l'accord d'Helsinki. Le président indonésien Joko Widodo a admis qu'il avait encore besoin de temps pour discuter de la mise en œuvre de l'accord d'Helsinki. Cela a été dit par le président Joko Widodo lors de sa participation à l'événement Kenduri National en régence de Biren, Aceh, récemment. Le président a déclaré qu'il avait tenu des réunions avec un certain nombre de partis, y compris le maire de Nangro Aceh Darussalam, Tengku Malik Mahmoud Al-Haytar et Mualim Muzakir Manaf. Le président a promis de transmettre immédiatement la décision après avoir eu de discussions avec ses personnels.
Saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki.
Je veux affirmer un problème concernant l'accord d'Helsinki. J'ai rencontré et parlé avec le gouverneur, avec Wali Nangro, il y a 2 ou 3 semaines. Mais donnez-moi le temps de répondre, car les questions seront discutées lors des réunions limitées que nous organiserons chaque semaine. Je donnerai la réponse plus tard. Je sais déjà, beaucoup de choses m'ont été transmises. Auparavant, le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iriansa, avait exprimé espoir que le gouvernement central pourrait immédiatement accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Helsinki. Il était prévu que les habitants d'Aceh puissent immédiatement développer la région et améliorer l'économie.
Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk berkenan memberi dukungan melalui berbagai kebijakan, antara lain mempercepat.
Nous demandons au président de bien vouloir apporter son soutien par le biais de diverses politiques, y compris l'accélération de la mise en œuvre du protocole d'accord d'Helsinki. J'espère que nous mettrons bientôt en œuvre le développement dans son ensemble. L'accord d'Helsinki est un accord entre le gouvernement indonésien et le mouvement d'Aceh Libre, GAM. Cet accord a été conclu il y a plus de 15 ans pour instaurer la paix à Aceh. Jusqu'à présent, certains points de l'accord d'Helsinki n'ont pas encore été réalisés. Le gouvernement régional d'Aceh espère vraiment et attend que le gouvernement central mette immédiatement en œuvre tous les points de l'accord Helsinki. L'ONU décrit une situation horrible dans le nord-ouest de la Syrie. Le chef de l'ONU, Mark Lowcock, a décrit les conditions désastreuses dans le nord-ouest de la Syrie. La région connaît une situation désastreuse ces derniers mois. Environ 3 millions de Syriens subissent des attaques de troupes fidèles au régime de Bachar al-Assad. Cela a été dit par Mark Lowcock, tel que rapporté par l'agence Anadolu dimanche 23 février. Lowcock a continué: les Syriens qui avaient fui la Ghouta orientale ont été déplacés dans la province d'Idlib. Ils sont toujours menacés par les bombes, sans abri ni éducation. Selon lui, cela illustre la scène des campagnes brutales des régimes syriens et russes. Lowcock a déclaré que les habitants du nord-ouest de la Syrie sont pensés sans protection. En fait, selon lui, il n'y a plus de lieu sûr à l'Idlib. Un travailleur humanitaire avec un établissement de santé travaillant pour aider les Syriens a été tué lors du bombardement de jeudi. Il a ajouté que la population syrienne d'Idlib était prise au piège et tentait de s'en échapper. Le président et le vice-président assisteront au 7e congrès de la communauté musulmane indonésienne à Pangkalpinang. Le président Joko Widodo et le vice-président Ma'ruf Amin seront présents au 7e congrès de la communauté musulmane indonésienne dans la ville de Pangkalpinang, dans la province des îles Bangka Belitung, du 26 au 29 février 2020. Dimanche à Jakarta, le secrétaire général adjoint du Conseil central des oulémas indonésiens, Amir Shah Tamba, a déclaré que ce congrès serait ouvert par le président Joko Widodo, tandis que le vice-président Ma'ruf Amin le clôturerait. Il a dit que le vice-président Ma'ruf Amin, pendant la mise en œuvre de cet événement qui se tiendra une fois tous les 5 ans, aurait un bureau à Pangkalpinang, Bangka Belitung. Selon Amir Shah Tamba, Bangka Belitung en tant qu'hôte était prêt à recevoir des invités et des 800 participants au congrès, y compris la gestion du conseil central des oulémas indonésiens jusqu'à celui des régions, les organisations de masse islamique, les universités, les pesantren et d'autres parties prenantes. Le congrès de la communauté musulmane indonésienne de cette année discutera divers problèmes rencontrés par les musulmans indonésiens, notamment la politique, la région, les médias, l'économie et l'éducation. Visitez l'Australie, Emile lancera le Jabarno Café. Après avoir visité le Royaume-Uni et la Suède en juillet 2019, le gouverneur de Java occidental, Ridwan Kamil, a fait maintenant la visite de travail en Australie du 22 au 26 février 2020. Comme l'année dernière, la visite de travail de Ridwan Kamil cette fois vise à accroître la coopération dans divers secteurs, à la fois la promotion de Java OS auprès d'investisseurs potentiels. Cette visite a apporté des missions culturelles, sociales, économiques, environnementales, sanitaires et éducatives. Ridwan Kamil, dimanche 23 février, a déclaré que, lors de sa visite en Australie, l'un des points à l'ordre du jour était une exposition du café de Jabarno, le café typique de Java occidental qui tenterait également d'explorer le programme English for Ulama à apporter en Australie. à l'université Monash. Ridwan Kamil donnera également le discours lié à son expérience en tant qu'architecte et maire de Bandung et son rôle actuel dans la direction de la province avec la plus grande population d'Indonésie. En outre, son entourage et lui rencontreront également le Conseil central australien-Indonésie pour discuter du potentiel de coopération entre les deux pays. Sept personnes ont été tuées, des milliards de bâtiments se sont effondrés lors du tremblement de terre à la frontière turco-iranienne. Sept personnes ont été déclarées mortes et plusieurs autres ont encore été touchées par des débris qui se sont effondrés dimanche dans le sud-est de la Turquie en raison de chocs sismiques d'une magnitude de 5,7 près de la région frontalière avec l'Iran. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, l'a confirmé lors de l'arrivée d'une équipe de secours sur le site du séisme. La source du tremblement de terre aurait été à une profondeur de 5 km. Selon Soylu, 3 des morts étaient des enfants, alors que 5 personnes auraient été blessées. Environ 1066 bâtiments se sont effondrés. La vidéo de la télévision turque montre des photos de personnes ramassant des décombres et des murs de maisons effondrés avec une pelle, des fissures sur la route et un certain nombre de personnes à l'extérieur dans conditions de neige. Pendant ce temps, selon information de la chaîne d'information TRT World, le tremblement de terre a touché 43 villages en Turquie qui ont une histoire de tremblements de terre grave, alors que le gouvernement iranien a déclaré que le tremblement de terre pourrait se faire sentir dans sa région. Jusqu'à présent, aucun décès n'a été signalé. Macron promet de se battre pour les agriculteurs et les pêcheurs français. Le président Macron s'est engagé à maintenir les subventions agricoles européennes, à indemniser en toute sécurité les producteurs de vin touchés par les tarifs douaniers américains et à protéger les pêcheurs français des inquiets d'effets négatifs de la décision du Brexit. Comme RFI l'a rapporté sur son site internet dimanche 23 février 2020, Macron l'a déclaré dans son discours à la Foire agricole internationale de Paris hier. Selon RFI, lors de l'ouverture de la 57e exposition agricole de Paris, Macron a déclaré qu'il continuerait de s'opposer à la réduction des subventions agricoles un jour après l'échec des discussions sur un nouveau budget de l'Union européenne sans l'Angleterre. Comme ses prédécesseurs, le président Macron s'est engagé à maintenir un budget important pour le bloc de la politique agricole commune, PAC, dont la France était le principal bénéficiaire. Selon Macron, dans son explication, la PAC ne peut pas être utilisée comme variable d'ajustement du Brexit. Et la France ne se rendra pas aux partis qui souhaitent réduire le budget PAC. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et un pour le titre « L'Indonésie d'un pays en développement à un pays développé ». Les États-Unis, par l'intermédiaire de leur bureau de représentants américains au commerce auprès de l'Organisation mondiale du commerce, ont retiré la Chine et l'Indonésie de la liste des pays en développement. Outre la Chine et l'Indonésie, trois autres pays ont également été retirés de la liste, à savoir le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Les cinq pays sont déclarés comme pays développés dans le commerce international. La décision du Bureau américain de représentants commerciaux demandant à l'Organisation mondiale du commerce d'exclure l'Indonésie du statut de pays en développement qui est officiellement sorti le 10 février 2020. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients pour l'Indonésie du changement de statut d'un pays en développement à un pays développé? Pour certaines personnes, cela pourrait être considéré comme une réussite. L'Indonésie peut être assimilée aux États-Unis ou à d'autres pays européens, Est-ce vrai? En termes de commerce, le statut croissant d'Indonésie en tant que pays développé a plusieurs conséquences. Par exemple, la suppression de la facilité du système de préférence généralisée aux ESP ou l'allègement des droits d'importation sur les marchandises importées aux États-Unis. Les facilités de GSP ne sont accordées qu'aux pays les moins avancés et aux pays en développement. En outre, dans plusieurs accords commerciaux, les pays en développement reçoivent souvent une assistance technique des pays développés. Avec le changement du statut de l'Indonésie d'un pays en développement à un pays développé, les privilèges de l'Indonésie seront naturellement perdus. Les États-Unis pourraient augmenter les droits d'importation sur les produits indonésiens aux États-Unis. Avoir le statut de pays en développement est en effet rentable sur le plan commercial, car les marchandises importées des pays en développement qui entrent dans les pays développés bénéficient des droits d'importation moins élevés. Cette règle vise à aider ces pays à sortir de la pauvreté. D'un autre côté, l'Indonésie doit répondre avec sagesse à cette décision de changement de statut. Le reclassement du statut d'Indonésie en pays développé pourrait effacer diverses facilités liées au commerce qui ont été obtenues par l'Indonésie en tant que pays en développement. Cependant, l'Indonésie doit considérer cette décision d'une manière positive. La facilité qui est acceptée par l'Indonésie jusqu'à présent sous la forme d'un allègement des droits d'importation sur les marchandises a peut-être tempéré les résultats des exportations indonésiennes à l'étranger. L'Indonésie semble être gâtée avec diverses installations fournies par les pays développés. Le changement du statut d'Indonésie en pays développé et la perte de diverses facilités en tant que pays en développement devraient accélérer les exportations indonésiennes afin d'améliorer la compétitivité et la qualité des produits indonésiens à l'étranger. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement n'était pas inquiet de l'impact du changement de statut. Il dispose certainement de moyens et de stratégies pour faire face aux conséquences auxquelles l'Indonésie devrait faire face après ce changement de statut. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir chers auditeurs, nous nous rencontrons de nouveau dans notre programme L'Histoire d'aujourd'hui avec moi Audrey. Nous avons commencé avec les événements du 24 février 1920. Le Parti travailliste allemand a été transformé en parti nazi. Le Parti national-socialiste ouvrier allemand NSDAP, ou mieux connu sous le nom de Parti nazi, est un parti politique qui a existé autrefois en Allemagne. Le parti a été fondé au début des années 1920 et est basé à Munich. Auparavant, le parti s'appelait Deutsche Arbeiterpartei, Parti travailliste allemand. Le nom du parti a été changé le 24 février 1920 après que Adolf Hitler a pris la direction du parti. Le symbole officiel nazi était la croix gammée. Passons aux événements du 24 février 1946. Juan Perón est élu président de l'Argentine. Le 24 février 1946, Juan Domingo Perón est élu président de l'Argentine. La plateforme est une figure argentine controversée. En 1943, en tant que soldat, il rejoint le coup d'État pour renverser le gouvernement actuel. En 1944, il est nommé vice-président et ministre de la guerre. Un an plus tard, il a été évincé de ses fonctions et emprisonné. Cependant, sur l'insistance des travailleurs et des travailleurs qui l'ont soutenu, Perón a immédiatement été de nouveau libéré. Chers auditeurs, nous concluons avec le 24 février 1991. l'attaque au sol dans la guerre du Golfe commence. Le 24 février 1991, les troupes américaines et leurs alliés ont fait irruption au Koweït. La guerre s'est terminée 100 heures plus tard. En tout, pendant la guerre, 148 personnes seulement ont été tuées et plus de 20 000 soldats irakiens sont morts. À la suite de la guerre, plusieurs partis ont appelé Bush à continuer en Irak à renverser Saddam. Bush, dans son discours, a encouragé les Irakiens à se soulever contre le dictateur, alors qu'il espérait personnellement qu'un membre de l'armée irakienne le renverserait. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang jangan.
Mengapa, mengapa, oh mengapa,
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Satu-satunya chantée par Hi-Fi. Vous êtes avec nous, Voice Indonesia, l'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie. Je vais vous présenter mon Indonésie, intitulé « Le président ouvre une usine de rayon à Pelalawan Riau ». Vendredi dernier, le président Joko Widodo a inauguré une usine textile de Asia Pacific Rayon à la régence Pelalawan Riau. Dans son discours, le président Joko Widodo a déclaré qu'il était surpris de découvrir que l'usine textile Asia Pacific Rayon disposait d'une technologie sophistiquée pour produire 200 millions de semences de plantes industrielles sous forme d'acacia et d'eucalyptus. Le président Jokowi a également admiré la technologie APR qui transforme la fibre de bois en textile de type rayon. Le président Jokowi a déclaré que le gouvernement indonésien était déterminé à soutenir le climat d'investissement parce que beaucoup ne réalisent pas que le monde des affaires est très important en faveur de la circulation de l'argent et également des rouages de l'économie. Par conséquent, Jokowi a demandé au ministre de l'Industrie de soutenir le développement de l'industrie indonésienne du vêtement pour qu'elle soit plus globale. À cette occasion, le président Joko Widodo a également supprimé le départ des conteneurs contenant de la fibre de rayon pour l'exportation vers la Turquie jusqu'à 10 190 tonnes et l'expédition de 12 000 tonnes. Vers la centre de Java. Le président Jokowi a apprécié l'investissement en Asia Pacific Rayon qui a soutenu le développement de l'industrie textile nationale. En outre, la présence de Asia Pacific Rayon devrait également être une alternative pour réduire la dépendance à l'égard des importations des matières premières textiles, en particulier le coton. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré que l'optimisation et l'utilisation des matières premières textiles originaires du pays étaient très importantes pour améliorer les performances de l'industrie textile et des produits textiles indonésiens. Selon Agus Gumiwang, le ministère de l'Industrie prend actuellement plusieurs mesures pour continuer d'améliorer les performances de l'industrie à forte intensité de main-d'œuvre. Pour améliorer la compétitivité de l'industrie textile et des produits textiles, il a conduit beaucoup de choses. L'un d'eux est de faciliter la disponibilité des matières premières nationales. Pendant ce temps, le directeur de Asia Pacific Rayon, Basri Kamba, a déclaré que la présence de Asia Pacific Rayon pourrait avoir un impact positif sur les opportunités d'emploi et les opportunités commerciales pour les petites et moyennes entreprises dans les industries du textile et des produits textiles TPT en amont et en aval. Outre la Turquie, il a déclaré que les produits de la Asia Pacific Rayon était également exporté vers 14 autres pays, y compris les marchés mondiaux du textile tels que le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam, le Brésil et un certain nombre de pays d'Europe. Non seulement les exportations, la production de Asia Pacific Rayon sont également destinées à répondre aux besoins des matières premières textiles nationales. Ainsi, chers auditeurs, c'était mon Indonésie.
Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey
selendang yang biru. Hey, dia senyum padaku, itulah gadis impianku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Putri Remaja, chantée par Marcel. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz ou 4750 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons la beauté naturelle d'une plage à Bali. Donc, restez avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Quand on parle de plage, il est incomplet si on ne mentionne pas Bali. On sait que Bali a un grand nombre de plages qui ont leur propre beauté. L'une d'elles qui devient récemment un topic à travers des touristes locaux et étrangers est la plage Tegalwangi. La plage Tegalwangi est située dans la région de Pura Segara Tegalwangi, en ville Andigen Jimbaran, le district de Kuta Dusut, Badung, Bali. L'emplacement de la plage de Tegalwangi est en effet quelque peu caché, si bien que les touristes étrangers l'ont surnommée la plage cachée de Jimbaran. À la plage Tegalwangi, le sable est blanc. De haut d'une falaise abrupte, vous pouvez voir la vaste étendue de la mer. La beauté de la plage et les vagues sur divers rivages. Les touristes favorisent apprécier la plage en silence alors qu'ils sont assis derrière un rocher ou se détendre sur la falaise. Le plus beau moment pour profiter de la beauté de la plage Tegalwangi est l'après-midi. En attendant le coucher du soleil, les touristes pourraient voir certaines activités que les locaux font, telles que pêcher ou attraper les poissons avec des équipements simples. Le soir, les touristes pourraient également voir l'activité de vol à l'aéroport Igusti Ngurah Rai, y compris le décollage et l'atterrissage des avions. Outre d'être utilisé pour se détendre, La Plage Tegalwangi devient souvent le lieu central d'activité melasti, une série de Hari Raya Nyepi ou une journée religieuse du village local. Car le paysage de la Plage de Tegalwangi est toujours très calme, naturel et serein. Il n'est donc pas rare que cette plage soit utilisée comme un endroit pour prendre des photos de la mariée et du marié. Sur cette plage, vous serez dans les zones côtières totalement sereines parce qu'il n'y a pas de marchands illégaux. Si vous venez de l'aéroport Ngurah Rai et vous allez directement à Tegalwangi, vous ne prenez qu'environ 30 minutes, pas loin, n'est-ce pas? C'est parce que la plage de Tegalwangi est encore très naturelle, les touristes doivent faire attention à y accéder en raison de la pente raide. Du haut de la colline, les touristes peuvent passer le chemin en forme de corail avant que leurs pieds soient en contact directement avec le sable. À cette plage, il y a un hôtel de 5 étoiles dont les aménagements peuvent être vus clairement à distance. Vous pouvez y séjourner, bien sûr, si le prix vous convient. Secrétaire, maintenant l'entrée de cette place est totalement gratuite, y compris le billet de parking. Secrétaire, si vous n'avez pas encore décidé où vous voyagerez pour les vacances, n'hésitez pas à considérer la plage Tegalwangi comme votre destination. Un endroit confortable ayant des paysages exotiques garantis pour obtenir une nouvelle énergie. Chers auditeurs, nous terminons ce programme avec comme titre La Place Tegalwangi. Demain, nous allons vous revoir avec notre sujet plus intéressant encore. Au revoir!
Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, berikan kasih sayang. Biarkanlah dia pulang
dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan, tentulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Abirama, intitulée « Tersenyum lagi ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission « Apprendre l'Indonésien », une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Mencari tempat kos. Je répète, Mencari tempat kos, ou en français, chercher une auberge. Bonne écoute! Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Mencari tempat kos. Mencari tempat kos, ou en français, chercher une auberge. En voiture, Kevin cherche une auberge et il demande à Monsieur Imran de l'auberge la plus proche du campus.
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, mencari tempat kos. Mencari tempat kos, ou en français, chercher une auberge. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Tempat kos, qui signifie l'auberge. Mencari tempat kos, qui signifie chercher une auberge. Antar, qui signifie accompagner. Tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya? Tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya? Qui signifie l'auberge la plus proche de campus se trouve où? Di mana tempat kos dekat kampus? Di mana tempat kos dekat kampus? Qui signifie où est l'auberge la plus proche de campus? Mari saya antar ke sana. Mari saya antar ke sana. Qui signifie allez, je vous y accompagne. Terima kasih. Terima kasih, qui signifie merci. Dans le dialogue, Monsieur Imran invite Kevin en disant « Mari, saya antar ke sana. » « Mari, saya antar ke sana. » qui signifie « Allez, je vous y accompagne. » Le mot « Mari », je répète « Mari », on le dit en situation formelle, par exemple, aux personnes qu'on vient de connaître, aux patrons, aux enseignants, etc. L'expression Mari saya antar ke sana, Mari saya antar ke sana, qui signifie Allez, je vous y accompagne, c'est-à-dire Monsieur Imran invite Kevin à aller à la rue de Pemuda, où se trouve l'auberge la plus proche du campus. Les autres exemples pour inviter quelqu'un. Mari makan, en français, allez manger. Mari belajar, en français, allez étudier. En plus du mot mari, on peut aussi dire ayo pour inviter quelqu'un. Habituellement, on peut dire le mot ayo, je répète, ayo, en situation informelle, par exemple aux amis. Par exemple, ayo makan. Ayo makan, en français, allez manger. Ayo belajar. Ayo belajar, en français, allez étudier. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci pour votre attention. Au revoir.
Kau mau, kau mau, kau mau.
chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Kamu, chantée par Wendy Mark. Vous êtes avec nous, Voice Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz ou 4750 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Dans cette édition, je vais vous présenter la chanson de Kelly Puspito intitulée Tanah Airku. Cette chanson illustre la beauté et la richesse naturelle de l'Indonésie. Les montagnes, les collines, les forêts verdoyantes et les rivières sinueuses qui se jettent dans l'océan bleu. Voilà l'Indonésie avec une nature riche et belle. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Keroncong de Indra Utami Tamsir dont le titre est Tanah Airku, qui signifie Mon Patrie. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz ou 4750 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.